Voilà, donc ce matin, nous avons une pensée, une prière pour nos frères et sœurs de Côte d'Ivoire. C'est les élections là-bas et nous prions qu'il n'y ait pas de problème majeur et que les choses se passent dans la paix et que, voilà, que la volonté de Dieu soit faite. Des fois, Dieu permet que ce soit les plus vils qui soient élus. Hein, il a ça, il fait ce qu'il veut, mais c'est de toute façon lui qui fait ce qu'il veut, il fera ce qu'il voudra. Amen. Mais maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que surtout nos frères et sœurs, les enfants aussi, soient protégés. Et les personnes âgées aussi. Parce que là-bas, quand c'est chaud. Hein. Eh bien, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire aujourd'hui en particulier. Amen. On va lire Matthieu, chapitre 5, versets 43-48. Matthieu 5, c'est toujours le sermon sur la montagne. On est en train de faire une série là. Et ce matin, j'ai laissé un peu les béatitudes et je me suis dit, voilà, avec l'aide du Seigneur, je vais apporter autre chose, parce que si on parle tout le temps des béatitudes, les gens, ils disent, oh ben, j'écouterai quand ça sera fini, toutes les béatitudes d'un coup, et tout, mais là, ils vont être surpris parce que j'ai cassé le rythme, j'ai pris autre chose. Matthieu, chapitre 5, versets 43-48. C'est Jésus qui parle et dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, Jésus dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Ou dans une autre version, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Les péagers aussi n'en font-ils pas autant? Les péagers, c'était pas les pauvres péagers qui font le péage à l'autoroute aujourd'hui. C'était des gens qui s'engraissaient sur le dos des gens qui passaient d'une ville à l'autre. C'était des voleurs. Ils étaient reconnus comme étant des voleurs à l'époque. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. C'est tout un programme, ça. Ce jour-là, Jésus a placé la barre très haut. Très haut. Il a donné la norme de l'amour. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Si on enlève le « comme toi-même », on rabaisse la norme de l'amour. Et puis, Jésus va plus loin. Il dit, il nous enseigne que on ne doit pas aimer en mettant des restrictions au mot « prochain ». Prochain, je me rappelle, on avait un frère, il disait, « Mais enfin, pourquoi est-ce que je prierais pour les Chinois? Ce ne sont pas mes prochains, ils sont si loin. » Vous voyez? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit que aimer ceux qui nous aiment, ça n'a rien d'extraordinaire. Et lui, il veut, il exige de nous de l'extraordinaire. On est fils ou filles de Dieu, oui ou non? Qui est notre Père? Alors, si notre Père est Dieu, nous sommes des fils et des filles de Dieu, on ne doit pas se comporter comme des vers de terre. Et même, je suis sûr, il y a certains vers de terre qui se comportent mieux que certains humains. Jésus prêche là sur une montagne et il y a une grande majorité, une grande foule qui est là. Ce sont des juifs, la plupart. Parmi eux, il y a des religieux qui viennent pour espionner, en général. Hein. Et Jésus, donc, dit à cette foule, « Vous avez appris qu'il a été dit... » Il ne dit pas « Vous avez appris qu'il est écrit dans la Bible », mais il dit « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi, je vous dis, il dit. Et vous, il cite là un texte de Moïse que les religieux ont corrompu. Ils ont toujours fait ça. Ce texte, il se trouve dans le Lévitique, dans la Bible, dans le livre du Lévitique, chapitre 19, verset 17. Mais il le cite à la manière des religieux, comme les religieux le disent, parce que les religieux, ils savent bien que le peuple, il ne lit pas la Bible. Les religieux, ils savent très bien que le peuple, ils ont des tas de choses à faire toute la journée, et puis ils ne sont pas là à fouiller dans la Bible toute la journée, comme les pasteurs, les curés, etc. Et alors, ils en profitent pour arranger le message, pour justifier leur propre haine, et ils n'ont pas changé. Hein. Donc, il le cite, Jésus cite, le texte que Moïse a donné, à la manière des pharisiens, les pharisiens disaient, tu aimeras ton prochain et tu haïras tes ennemis. Les religieux le citaient mal. non seulement il le citait à moitié, mais il dit rajoutez, tu haïras ton ennemi. Mais ils ont toujours fait ça. Vous voyez, dans n'importe quelle religion chrétienne, c'est pareil. Ils ont soit rajouté des choses à ce que Jésus dit, ou alors enlevé des choses à ce que Jésus dit. La plupart du temps, ils ont enlevé et rajouté. Ils ont enlevé ce qui ne les arrange pas, puis ils ont rajouté des trucs qui les arrangent. Le texte de Moïse, qui écrit là, depuis des milliers d'années, on ne peut pas changer ça, parce que c'est Dieu qui veille sur sa parole. Personne ne peut changer ça. Eh bien, c'est écrit dans le texte de Moïse, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ce n'est pas Jésus qui a inventé cette phrase, c'est Moïse, des milliers d'années avant. Et eux, les religieux, ils le tronquaient. Ils disaient, « Moïse a écrit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais c'est des menteurs, ces gens-là. Les religieux ont toujours fait ça. De tout temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans les années 1500, il y en a qui ont protesté. On appelle des protestants. Mais ensuite, les protestants, ils ont commencé à faire à peu près la même chose. Donc, vous voyez, c'est pourquoi nous voulons absolument être certains que ce qui est enseigné, c'est écrit dans la Bible. C'est pourquoi les frères et sœurs viennent avec leur Bible, puis ils contrôlent si ce que je dis, c'est vrai. Ensuite, ils écoutent sur la prédication sur Internet ou sur des CD, et puis ils contrôlent pour voir si c'est vrai ce que je dis ou pas. Parce que c'est votre âme, c'est votre salut, c'est votre vie éternelle qui est en jeu. Vous n'allez pas vous laisser guider par des faux prophètes qui vous inventent n'importe quoi. Il faut que vous soyez au courant. Ce n'est pas parce que Michel a dit que c'est vrai. Vous devez contrôler. Amen. C'est votre responsabilité. Parce que je pourrais très bien arranger, n'est-ce pas, la vérité à ma manière. Eh bien, vous êtes responsable pour aller voir si c'est vrai ce que je vous dis. Il y a toujours de nos jours des gens, ce que la Bible appelle des faux prophètes, qui enseignent ce qui fait plaisir au peuple. Alors, c'est des évangiles, n'est-ce pas, il n'y a que de bonnes nouvelles. Dieu vous aime. Hein, vous allez à un enterrement. Alors, c'est une vieille charonne qui est morte, hein, mais une teigne comme ce n'est pas possible. Et puis vous entendez le prêtre ou le pasteur qui dit « Elle est avec les saints anges, elle qui était si bonne et tout. » Ah bon? Vous voyez, ils vous disent « Vous n'avez jamais vu ça ?» Mais bon, des fois je vais trouver le prêtre ou le pasteur, je dis « Mais pourquoi vous dites ça? C'est pas vrai ce que vous dites. Elle n'est pas avec les anges, elle est en enfer cette bonne femme. À moins qu'elle se soit repentie au dernier moment, mais c'était une horreur cette bonne femme. Pourquoi vous voyez au paradis comme ça? De quel droit? Mais pourquoi vous montez au peuple comme ça? » Il faut être vrai. Il y a toujours des faux prophètes qui enseignent ce qui fait plaisir au peuple, qui veulent brosser les gens dans le sens du poil. C'est pas bien, c'est faux, c'est pas bon. Faut pas. Faut être authentique. Alors, mon prochain, c'est pas seulement quelques personnes de la famille ou quelques personnes du village ou de mon pays. Non, notre prochain qu'on doit aimer, c'est aussi le casse-pied de service, c'est aussi cette vieille charogne de bonne femme. C'est tout cela qu'on doit aimer. Les casse-pieds, les crétins. Et même nos ennemis, ceux qui sont franchement opposés à nous et qui nous font du tort. Alors Paul, il reprend la chose, il écrit dans sa lettre aux Romains, nous on a mis des chapitres dessus, alors Romains 12, verset 10, il dit « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, si la soif, donne-lui à boire. » C'est-à-dire qu'il dit qu'est-ce que c'est aimer son prochain, qu'est-ce que c'est aimer son ennemi. Aimer son ennemi, ça ne veut pas dire avoir des sentiments dégoulinants de bonté, de « Ah, mais je l'aime ». Non, attendez, l'amour, moi j'aime ma femme, c'est de l'amour. J'aime ma fille, c'est de l'amour, mais il est très différent. J'aime mes amis, c'est de l'amour, mais c'est très différent. Et mes ennemis, c'est encore différent. Mais je vous garantis que l'amour que j'ai pour mes ennemis, ce n'est pas le même amour que j'ai pour mon petit-fils. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Alors, est-ce que Paul avait inventé cette formule? Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Non. Il l'a trouvé dans l'Ancien Testament, dans les Proverbes, c'est écrit Proverbes 25-21. Ce n'est pas inventé. Les religieux, au temps de Jésus, ils cherchaient à justifier leur enseignement sur la haine. Et mes frères et sœurs, ça n'a pas changé aujourd'hui. Alors vous avez les deux extrêmes, vous avez ceux qui envoient tout le monde au paradis. Alléluia, le Seigneur est tellement bon. Et puis vous avez les autres qui sont remplis de haine et qui poussent même les autres à aller poser des bombes. Et il faut trouver le juste milieu, le chemin, le juste milieu. Aimer ses ennemis. Mais comment y arriver? Alors, vous savez, je fais souvent des conférences, puis dans les conférences, il y a toujours à la fin des questions. Et j'entends souvent les orateurs qui disent « Ah, c'est une très bonne question ». Ils ne disent jamais « C'est une mauvaise question ». Ils disent toujours « C'est une très bonne question ». Moi, je ne dis pas toujours ça. Par exemple, là, comment arriver à aimer mes ennemis? Ça, ce n'est pas une bonne question. Ce n'est pas une bonne question. La bonne question, c'est « Pourquoi est-ce que je dois les aimer ?» C'est ça la bonne question. Ce n'est pas « Comment ?» C'est pourquoi est-ce que je dois les aimer. C'est pas comment je vais y arriver. C'est pourquoi je dois. Eh bien, il n'y a qu'une seule raison. Une seule, elle est essentielle. Aimer nos ennemis, c'est désirer ardemment qu'ils se repentent. Parce qu'ils sont en danger. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Nos ennemis, aimer nos ennemis, c'est désirer ardemment qu'ils changent de maître. Ils sont animés par un mauvais esprit et on les aime pour qu'ils changent de maître, pour qu'ils viennent à Jésus, pour qu'ils échappent à l'enfer. Parce que s'ils continuent comme ça, c'est l'enfer qui les attend. Le reste, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent, c'est la petite histoire. L'essentiel, c'est qu'il faut qu'ils échappent à l'influence de l'ennemi de leur âme. Il faut qu'ils échappent à l'influence des démons qui les animent. Vous comprenez ça, mes frères et sœurs? C'est la seule raison pour laquelle nous devons aimer nos ennemis. Il n'y a aucune raison. C'est impossible. Il n'y a aucune raison d'aimer nos ennemis à part ça. Il faut arrêter ces histoires de sentiments, de machins. Jésus ne nous demande pas d'être... Non. On doit les aimer uniquement pour qu'ils en arrivent à avoir un bon exemple, à se rendre compte que nous sommes sérieux dans notre foi, que nous croyons en Jésus-Christ, le Sauveur, mais que le Sauveur est quand même exigeant, qu'il ne sauvera pas tout le monde, que c'est seulement ceux qui viennent à lui, que c'est seulement ceux qui marchent selon ses commandements. Et alors on leur parle, on leur explique, on leur montre aussi des gestes d'amour. S'ils ont faim, on leur donne à manger. S'ils ont soif, on leur donne à boire. Aujourd'hui, c'est de plus en plus rare dans nos pays que des gens aient faim et soif. Enfin, ça arrive encore. Mais surtout si votre ennemi a un besoin ou quelque chose, il a... Ben voilà. Par exemple, il tombe malade, vous allez le trouver. Vous comprenez ce que je veux dire? Faire quelque chose de bien pour notre ennemi. Un jour, les disciples de Jésus, ils ont vu quelqu'un qui faisait quelque chose qui n'était pas bien. Alors, ils ont été vers Jésus, ils ont dit, « Seigneur, est-ce que tu veux qu'on dise au feu du ciel de tomber sur lui ?» Et Jésus a dit, « Mais vous ne savez même pas de quel esprit vous êtes animé. C'est horrible. C'est quoi cet esprit qui vous anime ?» Celui qui désire la mort de son ennemi... Celui qui désire que son ennemi aille en enfer, eh bien, il est animé lui-même par un démon de méchanceté. Vous voyez, Jésus ne dit pas « Je veux que vous aimiez vos ennemis comme vous-même vous aimez pour nous lancer un défi, pour nous embêter ou pour nous occuper. » Ce n'est pas ça du tout. Il nous enseigne cela afin que nous sachions comment agir afin de ne pas être nous-mêmes la proie du démon qui veut notre propre perte à nous. Parce que quand quelqu'un vient et vous offense, vous êtes offensé, il y a la rancune qui vient se mettre, il y a l'amertume qui vient se mettre, il y a toutes sortes de choses qui viennent se mettre, et vous perdez votre paix, vous êtes empoisonné à l'intérieur, et vous commencez à ruminer des choses mauvaises, et vous êtes en train de perdre votre âme. C'est ça le but du diable. Donc la personne, le truc qu'elle vous a fait, c'est encore pas trop grave. Ce qui est grave, c'est ce que vous faites avec ce qu'elle vous a fait. C'est comment vous réagissez par rapport à ce que la personne vous a fait. C'est ça qui est grave. Pour vous, pensez à vous. Vous voyez? On parle de maladie psychosomatique, mais c'est exactement ça. Quelqu'un vous fait du mal, quelqu'un vous blesse, quelqu'un vous êtes outré, quelqu'un vous et ça vous choque. Et plutôt que de déposer ça devant Jésus et dire « Je pardonne, ça ne veut pas dire que je vais l'aîner à lui lécher les trous de bras, mais je lui pardonne, je vais oublier ça, je pardonne Seigneur, pardonne aussi cette personne. » Si on ne fait pas ça, si on garde ça en soi, on développe toutes sortes de saletés en nous qui se mettent en maladie psychosomatique. Maintenant, les scientifiques le disent, Jésus parle de ça. Vous comprenez, mes frères et sœurs, pourquoi on doit aimer nos ennemis? C'est pour nous faire du bien nous-mêmes. Nos ennemis, à la limite, pourvu qu'ils soient sauvés, c'est ça qui est important. Mais c'est que vous risquez aussi de vous perdre, non seulement d'aller en enfer, avec un cœur rempli d'amertume, mais en plus de vivre une vie sur terre qui est une vie épouvantable. De cultiver toutes sortes d'amertume, de rejetons, de choses mauvaises en vous. Et la plupart des gens font ça.
Puis je croyais très malin, dire, oh, moi je crois pas au Seigneur Jésus. Ah non, non, moi Jésus, vous comprenez, c'est mon biais. Non, moi je crois pas ces choses. Je suis plus intelligent que la moyenne des ours, moi.
Ah oui? En tout cas, je ne changerai pas leur vie contre la mienne.
Ouh, Dieu est amour. Et rien à part de ce qui est amour n'entrera dans le paradis. Rien. Dieu est amour, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas juste. Il est juste aussi. Et tant que nous sommes ici-bas, on peut se tourner vers lui parce qu'il nous aime. Dieu n'est pas en colère contre vous. Quoi que vous ayez fait, il n'est pas en colère contre vous. Il vous aime. Mais si nous démontrons, par notre endurcissement, par notre façon de vivre, qu'on n'en a rien à faire de son amour, qu'on n'en a rien à faire de ses conseils, tu as parlé, tu as dit tout ça, on s'en fout. Si tu démontres par ta vie, par ton comportement, que son salut, tu t'en fiches complètement. Si c'est ça ta vie. Alors, à la seconde de ta mort, je peux te le dire, par amour pour toi, Dieu va t'éloigner de lui. Lui qui est lumière, lui qui est bonté, lui qui est félicité, il va t'éloigner de lui et il va t'envoyer dans les ténèbres parce que c'est ce que tu auras aimé toute ta vie. Les ténèbres, le malheur, les problèmes, la révolte, les scandales, les machins comme ça. Et tu iras dans les ténèbres. Dieu a préparé un endroit par amour pour les gens qui n'aiment pas la vérité, qui n'aiment pas l'authenticité, qui n'aiment pas la bonté, qui n'aiment pas l'amour, qui n'aiment pas le pardon, mais qui aiment le ressentiment, qui aiment la haine, qui aiment bien trempoter là-dedans. Et puis ça, c'est ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils vivent déjà l'enfer et quand ils sont morts, ben, ils continuent à le vivre. Et Dieu le fait par amour, parce que comme vous n'allez pas me dire que si vous êtes... Écoutez bien, vous ne pouvez pas vivre 80 ans sur la terre avec Dieu, comment vous pouvez vivre pendant l'éternité avec Dieu? Si vous ne le supportez pas déjà ici-bas, comment vous allez pouvoir le supporter après? Si vous n'aimez pas ses règles déjà ici-bas, si ça ne vous intéresse pas ce qu'il dit, comment est-ce que vous pouvez prétendre aller vers lui pour l'éternité? Mais vous allez vous... Ça va être horrible pour vous d'être avec tous les chrétiens là-haut dans le ciel et les anges et tout ça. Vous n'allez pas le supporter. Donc par amour, il a préparé un endroit pour vous, pour le diable et les démons. Par amour. Parce que Dieu n'est pas méchant. Mais vous montrez ce que vous aimez. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu est clair. Rien de souillé n'entrera dans son paradis. Ici-bas, mais quand on regarde la terre comme c'est beau, quand on voyage comme c'est beau, quand je vais en Suisse comme c'est beau la Suisse, ma femme elle a toujours un idéal sur la Suisse, elle n'arrive même pas à imaginer qu'il peut y avoir des choses horribles qui se passent en Suisse. C'est tellement beau la Suisse, les gens sont gentils, sont souriants, vous arrivez au magasin, bonjour monsieur, bonjour madame, sauf dans quelques-uns, mais bonjour madame, bonjour monsieur, tout le monde est tellement gentil, elle ne peut pas imaginer qu'il y a des horreurs qui se passent en Suisse, mais c'est vrai. Et puis quand vous vous baladez en France, c'est village, c'est joli, ce petit clocher, ce peuplier à côté, les petits étangs, les canards, les machins, les enfants qui jouent. On ne peut pas imaginer qu'il y a des horreurs, des ordures, qui violent leurs enfants dans les coins, dans les granges, les machins. On ne peut pas, c'est tellement beau ce que Dieu a fait, c'est tellement beau. Mais l'homme, la femme, ils ont tout foutu en l'air. Tout foutu en l'air, par méchanceté, par envie, par égoïsme, par négligence, par bêtise. C'est démoniaque. Et vous croyez que Dieu va permettre à cette humanité de dégénérer, d'entrer dans son nouveau monde? Non, mais vous rigolez. Lui, il veut pas, et moi, je veux pas non plus. Parce que si c'est pour continuer dans un nouveau monde avec les mêmes personnes qu'ici, qui veulent pas changer, qui continuent toujours, eh ben non, moi, je préfère alors que le néant existe. Je veux pas aller en enfer, mais je préférerais que le néant existe plutôt qu'un paradis rempli des ordures qu'on trouve sur cette terre. Si vous ne voulez pas de lui ici-bas, comme Dieu, comme maître, alors par amour, par respect pour votre volonté tordue, eh bien, il vous placera dans un endroit loin de sa présence où vous pourrez continuer à souffrir et à faire souffrir les autres, un endroit de souffrance qui est dû au mal sous toutes ses formes, un endroit qu'il a réservé, comme je vous l'ai dit, pour le diable, pour les démons, puis pour tous les humains qui n'aiment pas ce qui est vrai et paisible. Voilà. Ça, c'est ça ce que la Bible nous dit. Aujourd'hui, Dieu n'est pas en colère contre vous. Quoi que vous ayez fait, quoi que vous ayez dit, il vous aime tel que vous êtes. C'est-à-dire, il veut vous sauver. Rappelez-vous, ce n'est pas un amour dégoulinant de bons sentiments. C'est un amour pragmatique. Il veut vous sauver. Il veut vous faire sortir des ténèbres pour vous mettre dans sa lumière. Il veut vous sortir de la misère pour vous mettre dans son abondance de vie. Il veut vous mettre, il veut vous sortir de votre vie de crevure pour vous mettre dans quelque chose de merveilleux sur cette terre. Et ces enfants, les vrais chrétiens, je ne parle pas des chrétiens de nom, mais je parle des vrais chrétiens, eh bien, ils agissent comme lui. C'est ce que Jésus dit, il faut que vous agissiez comme votre Père. Soyez parfaits comme votre Père est parfait, c'est ce qu'on vient de lire. Et comment je peux... Ça, ce n'est pas une bonne question. Comment je peux être parfait? Ce n'est pas une bonne question. Mais pourquoi je dois être parfait? Ah, ça, c'est une bonne question. Tu dois penser, vouloir, agir comme ton Père pense, veut et agit. Aimer tes ennemis, les aimer, prier pour eux, être gentil avec eux, afin de les attirer à Dieu, afin qu'ils puissent être sauvés, afin que leur âme soit sauvée. Dieu est notre Père. Qui veut faire honneur à la famille? Vous comprenez? Dieu est notre Père. Est-ce que vous voulez faire honneur à votre famille céleste? Si Dieu, votre Père, agit ainsi, alors moi aussi j'agis comme ça. Les petits-enfants, ils veulent tous faire comme papa. Vous comprenez? Le papa, c'est le héros. Si c'est un papa normal, si ce n'est pas un papa dégénéré. N'est-ce pas? C'est comme ça. Dieu agit ainsi, alors j'agirai ainsi. Dieu, il a cette raison-là, eh bien, pour agir de cette manière-là, eh bien, je dois avoir les mêmes raisons que lui pour agir de la même façon que lui. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Aimer. Aimer. Aimer notre ennemi, c'est pas avoir des sentiments dégoulinants de bonté doucereuse à leur égard. Aimer, c'est pas un sentiment, écoutez-moi bien, parce que les gens veulent sentir de l'amour. Mais alors ça, c'est une chose bête. Mais s'il y a une chose bête, c'est cette sorte-là d'amour, hein, qu'on sent son petit cœur qui bat. Hein, c'est cette sorte-là d'amour qui fait qu'il y a 2 divorces sur 3 mariages. Parce que quand on sent de l'amour, le sentiment, vous n'avez jamais pensé à ça? Les sentiments, mon Dieu. Bien sûr qu'on ressent de l'amour, mais on a vu tellement de gens s'aimer, n'est-ce pas? Et puis cet amour se transforme en haine. Non? Bien sûr. Quand on aime, mes frères et sœurs, c'est une question de comportement. On se comporte autrement que quand on est. Aimer, ça se traduit par des actes. Par des paroles aussi, bien sûr. Mais par des actes surtout qui procurent la paix. Aimer, c'est prier pour nos ennemis, dans le secret de notre chambre. Aimer, c'est lui vouloir du bien. Aimer, c'est faire du bien. Aimer, ça n'a rien à voir avec un truc sentimental. Rien. Mais alors là, rien. Tous ces gens qui aiment, n'est-ce pas? Je t'aime de l'amour du Seigneur. Chiche. Hier, on était dans une réunion et ils ont chanté « Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. » Et une petite voix qui me disait, ça veut être un ange, qui me disait « Chiche. Prends tout, Seigneur. Chiche. Prends tout. » Osez dire une chose comme ça à Jésus. « Prends tout. » Alors, le Seigneur dit « Bon, ben écoute, j'ai besoin que tu donnes 1 000 euros pour... c'est faisable pour aller donner du riz à un village. » « Ah ouais, mais là, tu les as ou tu les as pas ?»« Ben non, justement, si, je les ai, mais je les ai parce que, voilà, mais, enfin, oui, prends tout, Seigneur, oui, mais peut-être pas ça quand même, faut pas pousser. L'apôtre Paul, la Bible nous dit qu'il empruntait même pour pouvoir donner aux autres. L'amour, c'est des actes, c'est pas des sentiments. C'est comme l'histoire, vous savez. Ah, il a bien parlé le pasteur. Oh oui, il a vraiment bien parlé. C'est vrai, il faut donner quand on aime, on donne. Oh oui. Hein, Jésus l'a dit, si tu as 2 manteaux, hein, tu en donnes un aux pauvres. Tu n'en as besoin que d'un finalement. Jésus l'a raison. Oui, c'est vrai, il a raison. Et puis, toi tu ferais ça. Oh oui, moi si j'avais 2 manteaux, je donnerais un manteau aux pauvres, c'est sûr. Et puis si tu avais 2 cochons. Oh non, tu n'as pas le droit de dire ça parce que tu sais bien que j'en ai 2. Comprenez? Voilà, c'est toujours. Oui, c'était très bien, mais bon, une fois sorti de là. Non, c'est bien, mais enfin bon.
Oh, pas de fanatique.
Aimer. Frères et sœurs, il n'y a que les forts qui aiment, que les balèzes qui peuvent aimer. L'amour, ce n'est pas un truc de faiblard. Les faibles, eux, ils dégoulinent de bons sentiments, girouettes. Ça, c'est très différent. Mes amis, mes frères et sœurs, l'amour, c'est un service pratique. L'amour, c'est humble. L'amour, ça ne fait pas cas de soi. Vos ennemis cherchent à vous faire du mal, cherchez à leur faire du bien. Vous voyez, le contraire. Comment Dieu nous a-t-il traités, nous?
Hein? Matthieu le dit, l'apôtre. Alors que nous étions ses ennemis, hein, on blasphémait, on jurait, on était des païens infinis. Eh bien, Christ est mort à notre place afin de nous réconcilier avec Dieu, alors qu'on était ses ennemis. En tant que chrétiens, si nos ennemis appellent sur nous la misère, les catastrophes, en souhaitant notre chute, eh bien, nous leur répondons en appelant sur eux la bénédiction du ciel, en souhaitant qu'il leur arrive du bien. Mais qui agit comme ça dans le monde? Pas grand monde, hein? Eh bien, c'est pour ça que tout va de travers. C'est parce qu'il n'y a pas grand monde qui agit comme ça. Vous direz, mais moi, si je commence à agir comme ça, je vais me faire marcher sur la tête. Ah, certainement pas. Si tu agis comme ça, Dieu va être de ton côté. Et c'est Dieu qui va se charger de dresser le poil à ceux qui sont tes ennemis. Vous comprenez? Parce que tu auras commencé premièrement à faire ce qui est juste selon le royaume de Dieu. Et lui s'occupera de tes affaires. N'est-ce pas ce qu'il a promis? C'est exactement ce qu'il a promis. Donc, quoi faut-il le savoir qu'il a promis ça? Quand est-ce que les humains, les terriens, vont-ils se rendre compte de leur folie? Quand est-ce qu'ils s'arrêteront dans cette escalade de méchanceté, de pratique du mal? Quand? Pourquoi pensez-vous que Dieu envoie encore ses serviteurs aujourd'hui au XXIe siècle? Ce n'est pas pour donner un nouveau message, c'est pour dire encore et encore et encore la même chose. Et c'est quoi le message? Le message, c'est repentez-vous, c'est-à-dire changer radicalement de comportement. Se repentir, ce n'est pas aller pleurnicher dans un confessionnal sur nos péchés en pensant qu'après, voilà, Dieu va effacer l'ardoise et puis on va pouvoir continuer. Non, se repentir, c'est changer radicalement de comportement. Mais comment c'est possible? Ça, c'est une mauvaise question. Pourquoi Dieu veut qu'on le fasse? C'est ça la bonne question. Mais c'est pour votre bien que Dieu veut que vous fassiez ça, ce n'est pas pour votre mal. Si vous ne faites pas ce qu'il dit, c'est vous qui vous faites du mal. Le diable, il vous a programmé dès votre naissance, il vous a formaté d'une certaine manière, et puis vous avez été souillé par des suppôts de Satan, vous avez été malmené par toutes sortes de gens, par toutes sortes de situations démoniaques. Ce matin, cassez la chaîne. Au nom de Jésus, repentez-vous. N'accusez pas les autres. Repentez-vous, pas du mal qu'ils vous ont fait, mais repentez-vous du fait que vous n'avez pas crié à Dieu. Repentez-vous du fait que vous n'avez pas confié votre âme à Dieu pour qu'il puisse en prendre charge. Laissez Dieu vous reprogrammer. Parlez-lui. Écoutez-le. Prier, c'est parler à Dieu. Hein, ils ont fait des prières toutes faites, qu'on lit comme ça. Mais non, ce n'est pas ça, prier. Dieu, il n'aime pas ces sortes de prières. Il aime quand ça vient du cœur, qu'on lui dise avec nos mots ce qu'on a, nos souffrances, nos péchés, nos besoins, nos désirs, tout ce qu'on a sur le cœur, de lui dire toutes ces choses qui pèsent sur notre âme. C'est ça, prier. Prier. Et puis ensuite, après avoir prié, écoutez-le, c'est-à-dire lisez la Bible. La Bible. Quand vous lisez la Bible, c'est, vous écoutez Dieu parce que Dieu a voulu que les principales paroles, les choses les plus importantes, ce livre, il ne va pas vous dire comment Dieu a créé le monde. Ça, c'est une mauvaise question. Mais pourquoi il a créé le monde? Il va vous raconter. Ce livre, il vous explique plein de choses qui sont très importantes pour votre vie. Et quand vous le lisez, c'est hautement sacré, ce livre. Quand vous le lisez, vous ouvrez ce livre, c'est Dieu qui vous parle et ça change. Je vous explique, j'expliquais ça à Jean-Daniel hier soir. Il y a des gens, quand ils vous parlent, leurs paroles sont un poison en vous. Ça vous empoisonne la vie. Et puis d'autres, ils viennent puis vous disent quelque chose de gentil. Ah, ça vous fait, vous êtes tout content. Ça vous est jamais arrivé, ça? Hein? Frères et sœurs, quand vous lisez ce que Dieu dit, vous êtes tout content. Parce qu'il vous dit des choses vraies. Il ne vous dit pas que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Il vous dit que vous êtes un pourri, le sait, il est au courant. Mais qui ne vous en veut pas, qui vous aime, qui veut vous pardonner, qui veut vous aider, qui veut vous guider, qui veut vous élever, qui veut vous fortifier, qui veut vous cacher afin que vous soyez à l'abri de toutes des problèmes que les autres veulent vous occasionner. Et il vous fait des promesses. Il y en a des milliers de promesses à des gens qui sont pour vous. Quand vous lisez ça, ça fait du bien à votre cœur. C'est une nourriture. Ce n'est pas un poison comme certaines paroles. Cette parole-là, c'est une nourriture, une bonne nourriture. Alors vous lisez, et puis ça nourrit votre âme, ça nourrit votre esprit. Ça vous donne des choses, ce n'est pas des vitamines, non, mais c'est des choses pures, c'est des choses élevées, c'est des choses honorables. On a tous besoin de ça. Vous savez, si vous êtes tellement maladroit en amour, c'est parce que vous ne vous aimez pas assez vous-même personnellement. Aime ton prochain comme toi-même. On ne peut pas aimer notre prochain plus qu'on s'aime soi-même. Et si vous n'arrivez pas à aimer votre prochain, c'est parce que déjà vous ne vous aimez pas vous-même.
C'est celle qu'on prend. Maintenant, les psychiatres, ils ont compris ça. Ils le disent aux gens, puis les gens disent, oh, mais c'est vrai. Ça fait 2000 ans que Jésus nous bassine avec ces choses-là et personne ne veut l'écouter. Maintenant, c'est un psychiatre qui se fait payer cher. Ah, oh, alors si c'est le psychiatre qui a dit. Vous comprenez? Si tu n'arrives pas à aimer ton prochain, c'est parce que tu ne t'aimes pas déjà toi-même. Alors faites-vous du bien en lisant ce livre, la Sainte Bible. Imprégnez-vous des pensées qui vous concernent, des pensées que Dieu a à votre sujet. Imprégnez-vous de sa façon de voir les choses. Impressionnez votre pensée, vos esprits avec sa façon, comment il voit les gens, comment il voit les situations, comment il pense. Ne pensez pas n'importe comment. Personne ne va gravir le Cervin sans un guide. Personne ne vient à l'Amblore sans le GPS. On a besoin d'une carte. On ne dit pas, ah oh bon, ben, je m'en vais de Chezal, mais je sais pas exactement, je vais à l'Amblore, mais je ne sais pas exactement où c'est au sud, c'est au nord, moi je m'en fous, je roule, on verra bien. Ben, beaucoup de gens sont dans la vie comme ça. Ils avancent, ils ne savent même pas comment, où, quoi, qui. Ils n'ont pas de carte de route. La Bible, c'est votre carte de route, mes frères et sœurs. Faites ça. Faites ça. Ce sera le plus bel acte d'amour que vous pourrez vous faire à votre égard. De vous aimer vous-même. Vous ne pouvez pas aimer les autres si vous ne vous aimez pas vous-même d'abord. Prenez garde à vous. Ensuite, ben vous pourrez aimer votre prochain comme vous vous aimez vous-même. Vous avez compris pourquoi il faut aimer, même nos ennemis? Amen. Alors ce matin, on va tous fermer nos yeux. Et je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, je te prie de bénir chacun ici ce matin, de permettre que ton esprit qui est là au milieu de nous trouve une porte ouverte dans chaque cœur et que chacun et chacune puisse dire, oui mon Dieu, maintenant j'ouvre cette porte et je veux que tu viennes dans ma vie, je veux que tu me pardonnes mes fautes, j'ai vraiment besoin que tu pardonnes mes fautes, j'ai vraiment besoin d'être purifié par toi, j'ai été souillé, je me suis moi-même souillé, je ne me sens pas propre devant ta présence, Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi. Si quelqu'un veut ouvrir la porte de son cœur ce matin, levez votre main, je prierai pour vous. Levez votre main, je prierai pour vous. Si quelqu'un veut faire la paix, oui, Dieu te voit. Oui, Dieu te voit. Il y a même des enfants qui lèvent leurs mains. Soyez comme des enfants. Levez votre main, je prierai pour vous. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'une autre personne encore, après je vais arrêter. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur Jésus, je te prie de bénir ces personnes qui ont fait ce geste de foi et qui veulent ouvrir leur cœur pour recevoir le pardon de leurs péchés et recevoir ta vie, ton esprit, pour pouvoir vivre une vie différente, une vie de pureté, une vie belle, une vie avec ta bénédiction. Merci Seigneur Jésus de les aimer. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, je veux te prier de bénir maintenant notre sœur, au nom de Jésus-Christ. Sois béni, ma sœur. Sois fortifié par le Saint-Esprit, que tous tes péchés nous soient effacés maintenant, au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, tu es purifié maintenant de tout péché. Par le sang de Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour toi, sois purifié de tout péché. Et maintenant, que tes maladies disparaissent. Au nom de Jésus, je commande à tout esprit de maladie, quittez ce corps au nom de Jésus, je vous ordonne. Sois délivré, sois guéri. Que tout esprit de maladie sorte de là, par la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus, par les meurtrissures de Jésus. La maladie sort de là. Merci Seigneur Dieu. Tu agis puissamment dans ce monde. Merci Seigneur. Tu poses les blessures. Tu donnes Seigneur Jésus ta paix. Tu donnes ta paix. Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur de bénir mon frère. Bénis-le. Oh merci parce que tu pardonnes. Tu pardonnes les fautes. Tu effaces les fautes. Et tu le purifies. Et tu donnes ton esprit pour qu'il puisse marcher aller de l'avant jour après jour avec toi comme un homme de Dieu. Répondons autour de lui de bonnes choses au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu bénis, tu bénis au nom de Jésus-Christ. Tu bénis au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Toi, Dieu, au nom de Jésus-Christ, sois béni. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour toi. Tu es là-bas, sur tous ces côtés. Au nom de Jésus, ton frère, sois délivré de ses côtés. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, tu es vivant notre Dieu, tu es tout puissant. Merci Jésus d'accomplir ce matin les miracles dont nous avons besoin. Et au nom de Jésus, je veux prier aussi pour ces personnes qui regardent cette film vidéo. Au nom de Jésus-Christ, mettez votre main sur votre écran
et recevez la délivrance au nom de Jésus. Recevez le pardon de vos péchés, recevez la guérison. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Je voudrais aussi faire s'approcher. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu es tout puissant, notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia.